L'émission suivante est également publiée sur notre blog Un héros dans le net. Rendez-vous dans la section commentaires pour joindre la discussion.
Aujourd'hui à l'émission Parole à propos, l'histoire de la théorie de l'évolution. Bonjour, bienvenue à l'émission Parole à propos. Mon nom est Pascal Deneau et aujourd'hui, tel que promis la semaine dernière, je reçois à nouveau Julien de l'Association des sciences créationnistes du Québec. Bonjour Julien.
Bonjour Pascal.
Merci d'être à nouveau avec nous. Alors, vous vous souvenez peut-être si vous avez entendu l'émission la semaine dernière, sinon elle est disponible sur notre site en différé. Donc, on a commencé à faire le survol de l'histoire de l'évolution. Et comme on a vu avec Julien, ça n'a pas commencé avec Charles Darwin, mais bien avant, dans l'Antiquité grecque. Il nous a parlé de quatre philosophes grecs, Anaximandre, Démocrite, Épicure et Lucrèce, qui ont un peu brossé les premiers traits d'une théorie pour expliquer l'univers sans référence à la divinité, un petit peu pour libérer de la nature, du dogme d'un créateur ou d'une divinité qui aurait le contrôle sur la nature, mais donc d'en faire une nature autonome. Et donc le matérialisme est un peu né là. Quand je parle de matérialisme, on parle pas là donc du consumérisme d'aujourd'hui, mais plutôt de l'idée qu'il n'y a que de la matière qui existe et qui évolue, et donc toute la notion des atomes qui se transforment et qui produisent des formes dans l'univers et qui serait à l'origine donc de la vie. Alors c'est vraiment né dans l'Antiquité grecque, et comme on a vu, c'était pas suite à des observations scientifiques comme telles, mais c'était davantage une approche philosophique pour expliquer le monde. C'est à peu près ça, Julien?
Oui, c'est un très bon résumé, Pascal.
Good. Alors, on a laissé avec cette antiquité, et on va reprendre donc aujourd'hui, on va voir comment cette théorie a continué d'évoluer, c'est le cas de le dire, l'évolution de la théorie de l'évolution. Alors, je te cède la parole.
Alors, oui, il est important de parler aussi, donc, dans l'Antiquité grecque, de Platon et de Aristote, qui n'avaient pas la même vision que les quatre philosophes que tu as mentionnés. Pourquoi on va parler d'eux? Parce que, finalement, leurs pensées vont influencer le monde scientifique et le christianisme dans les siècles qui vont suivre. Alors, Platon, qui était considéré un peu comme un anti-héros de l'évolutionnisme, parce que lui, il avait avancé plutôt une théorie, une philosophie de l'essentialisme. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu avait créé était essentiel à la création. Il y avait un concept de plénitude et de perfection. C'est-à-dire que tout ce qui avait été créé par Dieu était parfait, était suffisant. Et s'il y avait des variations dans les espèces vivantes, c'était des imperfections. Alors, le principe de la plénitude, c'est important de le retenir, parce qu'on va voir toute son influence par après. Aristote, qui a vécu au même époque que Platon, là, dans les années moins 400, moins 300. Alors, Aristote fonde sa propre école, la Lycée, consacre un tiers de ses œuvres à la biologie. Aristote est considéré comme le premier encyclopédiste. Hein. Il l'a consigné par écrit de façon très organisée, beaucoup de savoir sur la biologie. Et c'est donc pour ça qu'il va avoir une très grande influence par la suite. Hein. C'est à cause de toute la précision de son œuvre et une très grande quantité de ses observations qui étaient véridiques, bien organisées.
Oui, sa démarche était davantage scientifique, Aristote.
Oui. C'est ça. Effectivement, il a été considéré par la suite là dans l'Église, on va dire de lui qu'il était le philosophe avec un grand P, le docteur divin. C'était celui qui a amené un peu le côté logique. Hein? L'Église était là pour la foi, la théologie, et Aristote a été à un certain moment donné considéré comme le logicien, celui qui avait amené la science et la logique.
Et tout le mariage, surtout dans l'approche catholique, entre la loi naturelle, le monde naturel et le monde théologique, donc c'est Aristote est vraiment un peu, va servir à cet arrimage entre les deux.
Oui, effectivement, et c'est exactement là qu'on arrive, Pascal. Donc, dans les premiers siècles qui ont suivi Jésus-Christ, donc les écrits de Platon et d'Aristote, les écrits des philosophes grecs sont un peu perdus de vue, mais il y a comme une redécouverte dans les années 1300. Et là, on arrive à un personnage très important, Thomas d'Aquin, un des principaux maîtres de la théologie catholique. Lui, dans le fond, son but là était vraiment de prouver l'existence de Dieu en produisant des preuves logiques. Alors, il va récupérer la logique d'Aristote, il va créer des preuves logiques, il va démontrer que la foi chrétienne est conciliable avec la science et avec la logique, il ne faut pas s'opposer. Alors, il va réussir à faire ça. Il écrit la majorité de son œuvre à l'Université de Paris au 13e siècle. Et donc, les travaux de Thomas d'Aquin vont être transformés en doctrine officielle de l'Église, juste pour montrer à quel point c'est important. Et on sait que c'était à cette époque-là, l'Église est derrière les universités, donc derrière la science. Elle a une influence sur la science.
Oui, et souvent, c'est une idée du Moyen Âge très obscurantiste qui était opposée au progrès, alors que l'Église du Moyen Âge, bon, c'est une approche dogmatique, mais qui était vraiment très favorable au savoir, aux découvertes qui était favorable à la science et au débat. En étant ce qu'on a appelé la sainte scolastique, hein, c'était vraiment
Oui,
l'époque de grande
effectivement.
réflexion.
Oui. Oui, d'ailleurs, c'est de là qu'est née la scolastique, là, cette espèce de jonction entre la pensée d'Aristote, la logique, la science et la foi. Et oui, comme tu le dis, effectivement, c'est important de se rappeler ça parce qu'il y a eu certains événements, dans le Moyen Âge, certains événements comme le procès de Galilée qui sont très mal compris, qui sont
Oui.
très mal rapportés aujourd'hui.
Et d'ailleurs, si tu me permets, je fais juste une
Ben oui.
parenthèse. On a fait une émission avec Clément qui nous a résumé vraiment les faits basés sur des sources originelles du procès de Galilée, qui n'est pas vraiment ce qu'on pense. Alors, si ça vous intéresse, ça aussi, c'est disponible dans nos archives, où je le mettrai même en lien sur l'émission, là.
Oui. Ben effectivement, donc je m'avancerai pas plus là-dessus, mais c'est vraiment pour dire que oui, c'est une vision là, que les gens ont qui est complètement fausse quand on étudie l'histoire, que le christianisme s'est opposé à la science, quand on sait que tous les fondateurs des sciences modernes étaient chrétiens, croyant à la création divine, et ont écrit sur la création divine. Complètement faux de dire aujourd'hui que le créationnisme est un obstacle à la science. Hein. Souvent, c'est ce que les gens qui essaient de promouvoir l'évolution au temps moderne ou d'aujourd'hui nous disent tout le temps en attaque au créationnisme, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de scientifiques créationnistes dans le monde d'aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, c'est eux qui sont à l'origine du débat, c'est eux qui sont à l'origine de tous les organismes scientifiques et de la littérature créationniste. Et on les attaque en disant, puisqu'ils sont créationnistes, peuvent pas être objectifs, peuvent pas faire de la bonne science.
Ouais, c'est des arguments ad hominem, mais j'ai vu d'ailleurs en réaction à nos autres discussions vraiment beaucoup ce genre d'argumentation-là. Ça vaut même pas la peine de dialoguer avec des gens qui amènent aucun argument, mais qui font juste dire vous êtes idiot de croire à la création et l'évolution et c'est pas très très scientifique et très rationnel comme approche. Mais on regardera ça pour
Ouais, c'est ça.
une autre discussion.
Alors, si on revient à Thomas d'Aquin, lui, ce qu'il a fait dans un sens, c'est qu'il a donc apporté une version christianisée de l'univers parfait de Platon, hein, cet univers de plénitude qu'on appelle la Scala Natura, qui était un peu un ordre de complexité qui montrait les êtres les plus simples dans le bas, et il y avait un ordre de complexité, et en haut, il y avait Dieu, et tout était un peu parfait, cette chaîne des êtres-là. Et elle va donc devenir faire partie de la doctrine officielle de l'Église. Elle va influencer la pensée scientifique. Donc, à cette époque-là, ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que l'idée de fixité, que ce que Dieu a créé ne bouge jamais, devient une idée importante du créationnisme. Et on sait aujourd'hui que la fixité n'est pas vrai. Il y a une certaine élasticité dans les espèces. Et c'est de là toute l'importance de parler de l'influence de Platon et d'Aristote et de Thomas d'Aquin. Parce que les scientifiques très influents de l'époque étaient créationnistes. Et je vais vous donner deux exemples de ces scientifiques-là. Et ces scientifiques-là mettent beaucoup l'accent sur la fixité. Alors, ils vont un peu créer, hein, ils vont être une partie de l'explication de la réaction. La réaction à tout ça, c'est le transformisme. c'est certains scientifiques influents vont vouloir s'opposer à l'autorité de l'Église, vont vouloir s'opposer au fixisme, et donc le fixisme va devenir leur point d'attaque. La brèche qu'ils ont vue dans le créationnisme, ils vont s'attaquer à ça. Ils voient qu'il y a de l'élasticité, il y a des petites variations. On peut voir le nombre de variétés de chiens, de chevaux qui existent. On voit qu'il y a une espèce d'élasticité dans les espèces.
Si je comprends bien, là, si je résume, ce que tu dis, c'est que finalement, Thomas, inspiré par les théories là, de Platon et d'Aristote, va introduire dans la doctrine chrétienne une conception du monde et de l'univers qui est fixe, c'est-à-dire le fixisme, donc tout ce que Dieu a créé ne bouge pas, il n'y a pas, comme tu dis, d'élasticité. Et ce dogme-là va, en quelque sorte, causer la réaction à l'opposé de la doctrine de la création, le transformisme va être un petit peu l'élément déclencheur pour jeter le bébé avec l'eau du bain en rejetant.
Effectivement.
Okay.
Oui, c'est très exactement ça. Donc, est-ce qu'on a le temps d'aborder ces deux derniers personnages?
Il nous reste à peu près 4 minutes, si tu peux nous résumer.
Oui, c'est ça. Alors, je vais vous parler seulement de deux de ces exemples-là qui étaient des créationnistes influents et qui mettaient beaucoup l'accent sur le fixisme. John Ray, qui a vécu dans les années 1600. Il est considéré comme l'un des fondateurs de l'histoire naturelle moderne. Il a publié des travaux majeurs en zoologie. Il était avancé pour son temps. Ça a été le premier scientifique à décrire rigoureusement le concept d'espèce. Et donc, pour lui, John Ray, il considérait la Bible comme un écrit historique littéral. Il voyait la preuve de la sagesse et du pouvoir du Créateur là, dans ses travaux, dans tout ce qu'il a fait sur la zoologie. Il croyait une certaine adaptation des organismes vivants, de cette capacité d'adaptation, mais pour lui, donc, les espèces étaient fixes et c'est un scientifique influent de l'époque. Alors, le fixisme est donc très fortement attaché à l'idée de création à cause, en partie, de ces scientifiques-là. L'autre que je vous parle, Carl von Linné, très, très connu pour avoir, donc, être le père de la taxinomie moderne, de l'écologie moderne, le système binominal, là, par exemple, quand on dit l'homme est homo sapiens, ça vient de lui. Il a donc étudié des milliers d'espèces de par le monde. Certains pays lui ont renvoyé des graines des plantes pour qu'il les étudie, les classe dans son système. Dans les années 1700.
Okay.
1707 à 1778. Alors lui, il a inventé le système de classification qui nous sert jusqu'à aujourd'hui, là, qui a été répandu de par le monde, qui a été connu. Et pour lui, les espèces ont été créées par Dieu et tout son système était beaucoup basé sur la Scala Natura qu'on a parlé, qui venait un peu des écrits d'Aristote repris par Thomas d'Aquin. Et donc, il est influencé par cette idée de plénitude et de perfection et il a défendu rigoureusement l'idée du fixisme. Et ce fixisme qui était trop radical. Alors j'ai terminé de parler pour ce sujet-là parce que là, dans le fond, on arrive à cette réaction au fixisme. La table est mise à cette époque-là pour les gens qui veulent s'opposer à l'autorité de Dieu. Ils voient que le fixisme est une faille facile à venir attaquer.
Alors, est-ce que entre les philosophes de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, jusqu'au fixisme, la théorie d'évolution a été un petit peu mise à l'écart, était marginale?
Ben, effectivement, elle a été un peu, je dirais pas oubliée, mais elle était moins promue, elle était moins dominante. Par contre, dans les écrits de certains philosophes et scientifiques musulmans au 10e siècle, Al-Jaiz, par exemple, dans son livre sur les animaux, il parle d'évolution, là, donc de lutte pour l'existence, la transformation des espèces, l'influence de l'environnement. Donc, non, l'idée de l'évolution est encore là, mais à cause de la dominance du christianisme, elle est laissée de côté.
OK. Alors, quand on va revenir la semaine prochaine, je présume qu'on va donc voir toute cette réaction au fixisme avec l'entrée vraiment plus concrète dans la théorie moderne de l'évolution.
C'est ça? Exactement.
Ah ben, merci beaucoup, Julien. Alors, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci, Pascal.
À bientôt.